Hey yo l'équipe, bienvenue chez Iggy pour un nouvel épisode. J'espère que tu vas bien et que tu es en forme. Aujourd'hui chez Iggy, on va encore une fois parler d'art. Je me suis entretenu avec l'artiste enfant précoce à l'occasion de son exposition baptisée Oasis d'Abondance à la 193 Galerie. Merci à Enfant Précoce et à Malam, notre surprise guest, pour leur disponibilité. On a une conversation passionnante et j'espère que tu l'apprécieras. Dès maintenant, n'hésite pas à suivre le podcast, à liker, commenter, partager et recommander cet épisode. Tu peux aussi me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok essentiellement sous le nom Iggy & Co. J'ai mis la mention dans la description. Direction l'atelier d'enfants précoces, au 6B. Let's go! Alors, avant qu'on entre dans le vif du sujet, est-ce que pour commencer, tu peux te présenter à nos auditeurs?
Alors, moi, c'est Francis Essois, alias Enfant Précoce, artiste peintre, performer et mannequin.
Et mannequin, ok. Est-ce que tu peux nous parler de cette exposition Oasis d'Abondance? Exposition dont j'ai assisté au vernissage. Est-ce que tu peux nous en parler en quelques lignes?
L'expo s'appelle Oasis d'Abondance. C'est un sujet que je travaille depuis 3 ans maintenant. Il est né, l'Oasis d'Abondance est né à travers nous depuis, enfin, nous, quand je parle de nous, je parle de la diaspora et de l'Afrique, cette oasis d'abondance, cette idée de l'Eldorado, la France ou l'Europe ou l'Occident en tout cas, est née par le biais de la colonisation et tous ces échanges qu'il y avait à l'époque déjà. Mais moi, en tout cas, moi, mon oasis d'abondance, il est né à partir du moment où je suis arrivé en France. Donc je suis arrivé en France en 98.
Mmh. Et tu avais 10 ans à l'époque, c'est ça?
9 ans.
9 ans.
Okay. Ah, j'allais avoir 10 ans. Donc je quitte le Cameroun et je laisse là-bas mon grand-père, ma maman et quelques oncles. Mmh. Du coup, j'arrive en France. Et donc je viens pour les études, comme j'étais bon à l'école déjà au Cameroun. Donc je viens ici pour continuer ma scolarité. Et c'est au fil des années que je comprends un peu ce que c'est la France, quoi, pourquoi les gens la convoitent déjà. Mmh. Et pourquoi c'est un oasis aussi. Voilà.
D'accord. Alors au vernissage, quand tu t'es adressé à nous, les visiteurs, tu as expliqué, tu es revenu donc sur l'origine de cette exposition et tu nous as dit notamment qu'à travers ces œuvres et à travers cette exposition, tu ne dénonçais pas, mais tu racontais. Tu racontais ce que tu as vu et ce que tu as vécu à travers les yeux d'un enfant de 9 ans. Donc aujourd'hui, tu es adulte, avec ton expérience et ton vécu, est-ce qu'il y a justement des choses que tu aimerais dénoncer littéralement plutôt que de raconter, dénoncer à travers ton art ou par des voies plus classiques, disons?
Je ne sais pas si on peut appeler ça dénoncer parce que dénoncer, c'est un grand mot. Moi, je pense que l'enfant, il raconte juste ce qu'il voit, tu vois. Mmh. Et moi, en fait, c'est ce que je fais à travers mon art. Je raconte ce que je vois. Et après, ça bien sûr, j'ai une façon... assez avec humour que je raconte ces choses-là et je prends aussi le mon écriture en enfantine picturale pour raconter ces choses-là, mais c'est des choses qui sont réelles, c'est des choses qui sont dans le quotidien.
Une des choses que tu racontes et une des premières œuvres d'ailleurs qu'on voit en entrant à la 193 Galerie pour ton exposition Oasis d'Abondance, c'est la toile Les Naufragés. Alors au vernissage, c'est une des toiles qui a fait le plus réagir auprès de ceux qui étaient là. Les naufragés, c'est un sujet très actuel qui nous touche ou nous affecte selon les vécus et les sensibilités des uns et des autres. Qu'est-ce que tu veux exprimer toujours à travers les yeux de ce petit garçon de 9 ans qui arrive en France et qui voit cette actualité-là?
Je ne sais pas si c'est à travers les yeux de cet enfant de 9 ans, mais c'est à travers la casquette de l'enfant précoce que je raconte les choses. Pour les naufragés, je pense que c'est un sujet qui est récurrent, qui est un sujet d'actualité depuis des années. C'est pas maintenant, et je pense que j'étais né, il y avait déjà des naufragés. Donc, je pense que ça, c'est un sujet qui est actuel pas pour nous, vu que maintenant on a les médias, on a énormément de on peut compter et voir, s'apercevoir qu'il y a tant de migrations et de venues d'arrivées d'Afrique. Mais je pense qu'à l'époque, c'était aussi pareil. Peut-être beaucoup plus maintenant. Mais ce que je raconte par rapport à ça, c'est que c'est des personnes qu'on ignore, c'est des personnes qu'on les considère pas comme des êtres humains, vu que quand ils arrivent ici, ils sont paqués à la chapelle, ils vivent dans des tentes. La police les chasse à chaque fois.
La chapelle qui est le nom d'une des toiles qui est exposée justement d'ailleurs.
Ouais, c'est ça. Et je trouve que c'est des choses qui sont importantes de parler de ça, parce que on va passer à travers quelque chose sans le marquer, alors que ça fait partie de l'histoire du monde, en fait. Ça fait partie de l'histoire de la France, et ça fait partie des choses actuelles qui sont dans les médias, mais qui sont dans les médias de manière, ils en font beaucoup de débats, ils en font énormément de choses sans agir vraiment. Et je pense que c'est à nous aussi, Africains, de faire aussi de lever une conscience et de faire comprendre que, en fait, ici, ce n'est pas un Eldorado, que là, il va falloir qu'on essaye de comprendre que on peut aussi faire des choses chez nous, et que c'est possible. Moi, je suis ici et je connais pas chez moi, malheureusement, parce que j'ai grandi ici. Donc, je saurais pas comment me débrouiller chez moi, mais je sais comment me débrouiller ici. Mais j'ai l'envie de retourner chez moi, ça, par contre, oui.
C'est quelque chose qui traverse l'esprit de
Complètement.
que ce soit définitivement ou temporairement ou de faire des va-et-vient,
Ouais, c'est
c'est
ça, c'est ça.
avoir un atelier peut-être au Cameroun, faire de l'art là-bas, ouais.
Oui. Je crois qu'il y a mon oncle qui est là.
Et
Ok.
oui, il est là. Et
Bonjour,
voici
ça va?
Malam.
Je vous dérange?
Pas du tout, vous pouvez rentrer, vous pouvez rentrer. Justement, joignez-vous à nous. Donc Malam, qui est ton oncle, qui est artiste également et avec qui tu travailles beaucoup. Content de vous tomber dessus parce que j'ai une ou deux questions pour vous aussi. J'en reviens à toi, Francis. Alors, dans cette exposition, Oasis d'abondance, moi, il y a beaucoup d'œuvres qui m'ont touché personnellement. Je peux citer À Château Rouge, je peux citer Tata et le Vieux, Maman Monument Vivant. Enfin, c'est des toiles qui, quelque part, racontent aussi mon enfance. J'ai aussi vécu un petit peu les mêmes choses. J'en reviens encore toujours à l'enfant de 9 ans au travers lequel tu racontes toutes ces choses. Avec ce vécu et ce regard d'adulte, qu'est-ce que tu lis dans ces toiles?
Ben, je lis beaucoup la société française à travers les Africains qui la vivent, tu vois. C'est surtout ça, en fait. C'est surtout comment les Africains qui sont à Paris, dans l'Île-de-France, essayent de s'en sortir. Et je parle de la classe vraiment la classe vraiment ouvrière, tu vois. Et en fait, ça passe par des métiers comme cela, tu vois, des métiers qu'on raconte pas. Ça passe par beaucoup de débrouilles. Et en fait, moi, je suis au Cameroun. J'ai un autre statut. C'est-à-dire que ce que je découvre ici de la France, c'est quelque chose que j'aurais pu voir au Cameroun, mais c'est pas, ça m'aurait pas touché autant. Parce que déjà, ben, ça aurait pas été, il y aura pas eu un, ben, il n'y a pas de différence entre le blanc et le noir, ou, tu vois, tout le monde est noir là-bas. Et là, en l'occurrence, dans cette expo, ben, dans ce que je montre, en tout cas, je montre qu'il y a une différence de classe sociale. Et comment les Noirs interagissent par rapport à ça, tu vois, et comment ils se retrouvent à être dans Paris, à venir chercher leur bonheur dans cette oasis. Donc c'est ça en fait que ça raconte en fait. Et c'est ça en fait que, à travers mes yeux en tout cas, parle de ça.
Cette exposition, elle raconte donc beaucoup ton arrivée en France. Cette arrivée, cette découverte de nouveaux visages, le fait de se confronter aussi à de nouveaux regards, à quel point est-ce que ça affecte un enfant déjà, parce que tu étais enfant à l'époque, et encore aujourd'hui, à quel point est-ce que ça affecte un homme et secondement un artiste, tu dirais?
Franchement, ça dépend. Je pense que on traverse beaucoup de choses quand on est noir et notamment en Europe. Et je pense que qu'on soit né ici ou pas, ces choses-là, à un moment donné, on se pose la question de d'où on vient et qui nous sommes, etc. Donc ça va passer par énormément de choses que tu vas traverser à ton quotidien. Que tu t'en rendes compte ou pas, ça dépend vraiment comment tu mets la place des interactions que tu as au quotidien avec les gens. Moi, je sais que j'ai tendance à pas faire attention. C'est-à-dire que tu peux être méchant envers moi. Si c'est pas frontal, je passe. Franchement, je fais pas attention. Par moment, c'est après que je me rends compte que, ah, peut-être qu'il y a eu un acte de racisme, tu vois. Mais sur premier abord, j'ai appris à avancer. Et je pense que c'est parce que j'ai aussi été confronté à des chocs jeunes qui font que, bah, j'ai une résilience aussi aux gens que je vais rencontrer. Et peut-être faire plus attention à qui je fais entrer dans ma vie plutôt qu'aux choses qui vont me du quotidien. Ah, tu passes, tu vois quelqu'un qui est méchant, bah, il est méchant, quoi. C'est peut-être pas envers moi, je m'en fous, tu vois, mais je me dis, bon, bah, s'il aime pas les noirs, ça, c'est son problème.
Ces chocs que tu viens de mentionner, est-ce que c'était justement des chocs frontaux, comme tu l'as mentionné aussi, ou c'était
Plus jeune?
Oui.
Ouais, je pense que oui. Oui, quand tu arrives à l'école et qu'on te traite de blédard et que tu sais pas pourquoi.
D'où la toile.
Oui.
D'ailleurs, je suis nouveau à l'école, oui.
Donc, y a plein de choses comme ça qui font que bah, tu es différent, mais tu t'adaptes. Donc, je me suis vite adapté. Je me suis adapté. J'avais un accent camerounais quand je parle. Quand je parlais quand je suis au quotidien avec des gens de la famille ou des proches du Cameroun, mais que j'ai pas quand je suis en train de discuter avec Julien ou peu importe, tu vois. Donc voilà.
Et quand t'es enfant, ce genre de, j'allais dire ce genre d'incident, mais ce genre de fait, disons, est-ce que ça te force à grandir plus vite, à te faire une armure pour un peu te protéger, ou à justement mettre de la
Non,
distance toujours pour te
non,
protéger
moi
aussi?
ça m'a permis de me faire des amis beaucoup plus facilement. C'est-à-dire que bah, quand tu viens, t'es nouveau, t'es dans un nouveau pays, Tu parles français, mais tu parles avec un accent et les gens ils sont pas au courant qu'au Cameroun ça parle français. T'es là, tu parles français, mais t'as envie de te faire des amis, donc t'as pas envie d'être l'exclu, donc tu fais attention, tu t'adaptes, tu changes ta façon de parler. Moi je suis arrivé à Stein,
Ok.
donc c'est un peu Kaira, donc donc tu
J'imagine.
t'adaptes, tu te mets à parler le langage un peu,
Oui.
mais à la maison c'est
Ouais,
strict,
c'est tout
donc à la
tout,
maison
oui,
t'as un
exact.
langage. Un langage soutenu, t'es là,
Oui.
ah, ça parle bien.
Puis aussi, ça te force à développer cette espèce de capacité à, comme tu disais, à t'adapter à un
Bien
peu
sûr,
tous les groupes et tous
exactement.
les univers, et on développe tous un petit peu ce truc de caméléon où quand on est au
Complètement.
quartier, on parle différemment, on se tient différemment. Quand on est à Paris, dans une galerie d'art ou ailleurs, on se tient différemment et on parle différemment aussi.
Non, je pense que c'est aussi, ça m'a permis aussi d'être très observateur. Je pense que c'est ça qui fait que bah, j'ai un tempérament où j'observe beaucoup. Donc, quand mes premières soirées à Paris, j'étais très timide.
Oui.
C'est-à-dire que je suis là avec ma bière comme ça, je regarde les gens, j'observe qui est qui, tu vois. Et je pense que ça a été aussi ma force, je pense, d'être dans un coin, mais d'être. Parce que je voulais pas non plus être celui qu'on remarque pas, donc je faisais un peu attention à mon look, donc on me remarquait, et c'est ça qui a permis d'attirer l'attention et de me faire des amis. Mais j'étais très vraiment dans mon petit coin à chaque fois, pas avenant par exemple.
D'accord.
Donc et je suis toujours comme ça.
On va parler de peinture. Alors de peinture pure, disons. Alors je me souviens d'avoir vu passer tes premiers dessins il y a quelques années déjà sur les réseaux sociaux. En quoi est-ce que tu dirais que ton style, que ta technique, que ta peinture a évolué?
Premièrement, quand j'ai commencé, je faisais beaucoup de têtes. Donc, beaucoup de têtes et je faisais beaucoup d'assemblages, de corps qui s'entremêlent, de personnages, de différents caractères qui faisaient un ensemble et qui faisaient une toile. Et il n'y avait pas de perspective. Donc, je pense que j'ai, comme l'enfant, tu vois, t'apprends à dessiner. Enfin, je sais pas comment expliquer ça, mais mon parcours, il est très intéressant par rapport à ça. J'ai toujours voulu peindre et montrer qu'il y a un paysage et qu'il y a le personnage en premier plan. Je pense que c'est un apprentissage aussi, ma peinture, c'est de pouvoir faire des choses que je savais pas faire déjà il y a 10 ans, mais que j'avais envie de faire il y a 10 ans. Mais que je voyais pas la possibilité de faire et je pense que j'avais pas pratiqué assez. Et je pense que la peinture, c'est aussi la pratique. Moi, j'ai commencé à peindre il y a 10 ans. J'avais un travail à côté, donc je peignais pas constamment. Et je sais pas, je me dis, mais attends, c'est pas possible. Comment, mon oncle, il est là, il est heureux, il vit sa vie comme ça, là. Il se plaint pas de facture, rien. Je dis, mais attends, c'est quelle vie qu'il mène, lui?
Il a le tonton, il a le cheat code.
C'est quelle vie qu'il mène? Comment il peut être heureux comme ça? Et c'est-à-dire que peut-être qu'il y a un truc que lui, il a trouvé dans le métier que moi, j'ai pas trouvé. J'ai dit, attends, il faut que j'aille chercher ça. Et je me suis dit, bah, peut-être que ça passe par la pratique. Et je pense que quand tu pratiques énormément, bah, tu développes des skills. Tu ouvres des portes que tu n'avais pas avant et ça passe par être constamment en train de pratiquer. Je pense que c'est ça aussi qui a mené à ce que en 10 ans, ben, j'ai fait un bond de quelque chose d'abstrait à quelque chose de figuratif. Donc, mais ça n'empêche pas que je peux faire des choses abstraites aussi qu'il y avait il y a 10 ans.
Est-ce que, Est-ce que tu as un regard critique sur tes œuvres passées? J'en reviens à l'exposition parce que je sais qu'il y a des œuvres qui datent de 2020, enfin des œuvres qui ont quelques années déjà. Est-ce que ça t'arrive de tomber sur des œuvres ou des dessins vieux de quelques années ou même de tes débuts et de te dire, enfin d'être critique avec toi-même, quoi, de dire ah ça c'était pas mal, ah ça c'était pas bon du tout, ah ça j'arrivais à quelque chose.
Ouais,
Ouais.
et bah beaucoup moins maintenant parce que avant j'étais beaucoup plus critique et je pouvais même abandonner une œuvre ou la donner à un ami juste parce que je la trouvais moins belle à mon regard. Et maintenant je fais moins ça parce que je me dis mon regard va changer, parce que mon regard il a vachement changé par rapport à certains travaux, et au final je les regarde avec un œil en me disant quand même si il y a 5 ans je t'appréciais pas autant, mais tu restes, tu fais partie quand même de l'histoire d'enfant précoce, et c'est beau de voir aussi ce que j'ai fait il y a 10 ans et de se dire ah ouais, je suis passé par là,
Oui.
c'est fort.
Je rebondis sur quelque chose que tu as dit juste avant, ce shift en observant ton oncle et en te disant il faut que je pratique plus. À quel moment de ton parcours tu t'es dit il faut que j'en fasse mon métier à temps plein?
C'était donc j'ai commencé à peindre en 2013 et j'avais fait ma première exposition. C'était dans un salon de coiffure en 2014, un truc comme ça. Donc ça a enchaîné, il y avait plein d'expos. 2016, j'avais fait un autre truc. J'avais fait une expo collective avec d'autres artistes que j'avais trouvé le travail très fort, qui m'avait inspiré. Mais 2016, c'était une année où je sortais beaucoup, je faisais beaucoup de fêtes et je bossais moins. Et je travaillais aussi à côté. Donc, à la fin de 2016, je me dis, attends, en fait, il faut que je sache ce que je veux, en fait, par rapport à enfant précoce, et je commençais à réfléchir à une stratégie, à me dire, enfin, je me disais qu'il fallait que j'en fasse vraiment quelque chose de sérieux, et je pense que ça passe par la possibilité de pouvoir peindre chaque jour et de raconter des choses. Parce que j'étais frustré de travailler et de pas pouvoir peindre à ce moment-là.
Oui.
Et j'avais un job où j'étais vendeur, responsable dans une boutique. Donc ça te prend beaucoup de temps, donc tu es
De
là,
temps et d'énergie, j'imagine, oui.
donc tu peux passer des fois des journées, il n'y a pas de clients, donc tu es là, c'est des journées où tu fais rien. Certes, tu as un salaire et tu payes ton loyer et tu peux sortir le week-end, etc., mais c'est pas suffisant, quoi.
Oui.
Donc moi, j'avais besoin d'avoir assez de temps pour pouvoir vraiment produire. Et j'ai réfléchi à une stratégie qui me permettait de faire ça. Donc c'était un peu difficile au départ, et puis voilà,
Ouais.
la boxe, comme on dit,
Exactement, ouais,
c'est au
exactement.
quotidien.
Est-ce que c'est quelque chose que tu recommanderais à peut-être à des artistes qui sont justement à cette étape-là de se dire j'aimerais vivre de ça? Est-ce que tu leur recommanderais de faire ce grand saut et de justement peut-être courber les chines au début et puis advienne que pourra?
Franchement, c'est difficile, je vous mens pas. Je sais pas si tout le monde a la capacité. Et ça dépend vraiment En fait, il faut se poser la question de où est-ce que j'en suis à ce moment-là, là, à l'instant T. Donc moi, à ce moment-là où je me suis dit, je vais arrêter de travailler et donner mon temps à quelqu'un d'autre et prendre tout mon temps pour moi, je regardais un peu ce que je pouvais faire. Donc je savais que bon, ben, j'avais une agence qui pouvait me permettre d'avoir des castings, donc je pouvais aller faire des castings. J'ai réfléchi à une stratégie de pouvoir faire des œuvres que je pouvais commercialiser, donc une façon de les commercialiser sans tout autant vendre une œuvre à un bas prix. Donc j'avais trouvé le tatouage, par exemple, c'était une autre façon de démocratiser mon art. Donc je tatouais que mes dessins. Donc ça a commencé à prendre. Donc ça me permettait d'avoir de l'argent pour payer mon loyer et de manger. Donc il y avait plein de petites stratégies comme ça qui faisaient que j'avais la possibilité de le faire parce que j'avais pensé à ça. Mais je pense que si quelqu'un n'est pas dans des conditions de le faire, je pense que je l'encourage pas. Mais après, si quelqu'un est dans des conditions et qu'il y a quelqu'un qui il a des stratégies qui lui permettent de subvenir à ses moyens pendant une certaine période, bien sûr, foncez, il faut le faire.
Donc, à toi, artiste qui nous écoute, stratégie, stratégie, stratégie. C'est un petit peu le mot-clé.
Bien sûr.
On va parler de mode, de danse. Est-ce que ça t'influence? Oui, je dirais que ça t'influence. Moi, je le perçois en tout cas. À quel niveau est-ce que ça peut se voir sur une toile, par exemple, que tu fais aussi du modeling, que tu es très sensible à la mode et que tu es sensible à la danse aussi, que tu la pratiques? Est-ce que ça peut se voir à travers une œuvre?
Je pense que oui, parce qu'à travers une œuvre, je sais pas pour la danse, mais en tout cas pour moi, si je devais expliquer comment moi je travaille, c'est une technique très particulière parce que ma danse, elle est très abstraite. Donc ma peinture, elle est tout aussi abstraite qu'elle, même si elle paraît figurative. C'est-à-dire que je peux commencer quelque chose que je vais effacer et peut-être repartir sur autre chose, sur la même toile et garder certains détails. Donc, il y a du mouvement, en fait, dans mon travail, qui fait que c'est une danse aussi. Parce que quand je pratique, je danse aussi quand je suis à l'atelier. J'écoute beaucoup de musique. Et puis, mes tableaux ont de plus en plus, sont de plus en plus fournis et ils portent de plus en plus d'accessoires, de vêtements à détails, avec des motifs. Donc, je pense que ça représente aussi, je sais pas comment expliquer ça. Ça me représente moi, quoi. Ça représente les passions, les choses qui m'animent. Donc, la mode, ça m'anime. La danse, ça m'anime. La musique, c'est les choses qui m'animent. Donc, oui, je pense qu'on retrouve tout ça dans mon travail.
On a parlé de l'influence de la mode, de la danse sur ton art. Maintenant, on va parler de l'influence de ton oncle, Tonton Malam, qui est lui aussi artiste. D'ailleurs, tu le représentes sur une des toiles qui est exposée à la 193 Galerie. Cette toile s'appelle Citoyen du Monde. Alors, est-ce qu'il joue un rôle dans ta création, dans ta réflexion, et vice-versa peut-être? Est-ce que Tonton Malam, est-ce que Francis joue un rôle dans ta création et dans ta réflexion? Et je vais commencer par toi, Francis.
Oui, parce que quand j'ai commencé à quand je dessinais, je commençais à dessiner, c'était je venais souvent au CISB quand il avait à son atelier et il avait un de ses amis qui était peintre qui me donnait des exercices de dessin. Et donc il me faisait faire des triangles, des carrés, des ronds alors que moi je dessinais déjà. Donc un peu têtu comme l'enfant de comme les enfants qui savent déjà tout
Oui,
faire
exactement.
alors qu'il y a un certain truc c'est la base pour arriver à quelque chose. Donc il m'a appris la base sauf que moi j'étais têtu, j'ai pas compris. Donc j'ai fui l'école. Mais je venais souvent voir le madame. Je l'assistais sur ses œuvres. Et c'est après que j'ai commencé à peindre. Mais quand j'ai commencé à peindre, je lui en parlais pas au début. Je peignais un tout petit peu. Et je lui en ai parlé quand il y avait un peu de contenu. Et c'est lui qui m'a encouragé à faire des grands formes.
Quand tu es un peu plus sûr de toi et sûr de
J'étais
tes
même
œuvres, peut-être.
pas forcément plus sûr de moi, mais je faisais des choses que j'aimais bien. Et que lui, il trouvait ça intéressant et qu'il m'encourageait en tout cas. Et il me disait, si tu fais ça en grand, ça aura une autre force. Donc j'ai mis assez longtemps à intégrer ça parce que je trouvais ça ambitieux. Mais au final, maintenant, je prends beaucoup de plaisir à peindre des grands formats, quoi.
Et vous, madame, quelle influence, si influence il y a, Quel rapport créatif vous avez avec, avec
Bon,
votre neveu?
on est dans un univers où on s'auto-influence parce que, certes, il se fait appeler enfant précoce, mais il n'est pas aussi enfant que ça. Et ça a fait avancer mutuellement des gens. Il n'y a pas de dualité dans ce registre, mais si dualité il y en a, c'est une dualité qui est positive. Le monde, on se nourrit des choses nouvelles. Et la jeunesse, c'est le renouveau. Et puis aujourd'hui, il est un artiste. Il n'est pas un enfant, il est un collègue. Il n'est pas un fils. Donc, en tant que collègue, je pense que c'est important de le considérer comme tel. Il n'y a pas de petit artiste. Tous les artistes, ils sont artistes tout court. Et c'est pour ça que il peut m'influencer par ses couleurs, il peut m'influencer même par sa façon, son regard sur quelque chose qui peut-être sera différent du mien, mais je pense qu'à un moment donné, on converge vers les mêmes choses, vers les mêmes regards. Et c'est intéressant de vivre au quotidien avec lui, de vivre au quotidien avec un artiste. D'ailleurs, je passe beaucoup plus mon temps ici dans son atelier que dans le mien. C'est aussi un apprentissage d'être là et de partager ces moments qui sont nourrissantes. Voilà.
On arrive à la fin de cet entretien. J'ai encore deux petites questions. La première pour vous deux, comment se passe, disons, une journée ou une après-midi, justement, ici à l'atelier, donc en l'occurrence l'atelier de Francis? Est-ce qu'il y a beaucoup de conversations? Est-ce qu'il y a beaucoup de réflexions? Est-ce qu'il y a beaucoup de pratiques? Est-ce que c'est très sérieux? Est-ce que c'est très fun? Est-ce qu'il y a de la musique? Est-ce qu'il y a de la danse? Expliquez-nous un petit peu.
Moi, je pense qu'un atelier, c'est comme un salon de réflexion. Un atelier, c'est autant une école. Le fait d'être dans un environnement où habitent des choses qui nous traversent, qui nous nourrissent, ça devient déjà quelque chose d'important parce qu'un atelier, c'est comme un laboratoire. Et tout ce qui vit dans l'atelier est vivant. Et tout ce qui vit dans l'atelier nous parle. Et quand on est dans l'atelier, déjà être dans l'atelier avec un artiste, c'est être dans la vie de celui-là. C'est immersif. On en sort transformé.
Francis, tu veux ajouter quelque chose à cette question?
Pense qu'il a tout dit. Moi, quand je suis là, c'est vraiment. C'est là, par exemple, j'étais en train Il y a cette œuvre-là qui est en cours. À chaque fois que je suis là, je regarde, je vois toujours des choses à ajouter. Je matérialise des trucs. C'est une conversation que j'ai moi avec mon œuvre en cours. Et je peux avoir une conversation avec des personnes qui sont dans l'atelier, dans le même espace. Ça peut aussi me donner des idées pendant la création. En fait, une œuvre dans cet espace, en tout cas dans le mien, qui n'est pas un espace vraiment fermé au public, moi, j'encourage mes amis à venir passer du temps ici. Donc c'est ça aussi qui nourrit la création et qui nourrit l'œuvre. Donc c'est ces choses-là qui sont essentielles à, en tout cas, à mon travail.
Dernière question pour toi, Francis. En visitant l'exposition Oasis d'Abondance à la 193 Galerie, une des choses à laquelle j'ai pensé, ce sont ces happenings que tu faisais en 2019-2020 où tu te baladais à Paris avec tes grands formats et avec cet encart Exposez-moi enfant paix. On est 4, 5 ans plus tard. Qu'est-ce que ça fait de voir ce souhait réalisé, en l'occurrence à l'occasion de ce solo show à la 193 Galerie?
Ça veut dire qu'on peut toujours rêver. C'est toujours possible. Donc, j'encourage les gens à rêver grand. Parce que tout peut arriver. Donc, voilà. C'était une performance en soi en même temps. Parce que c'est un peu pour dire que, ben, c'est pas parce qu'on est jeune artiste et qu'on ne passe pas par comment on appelle ça, le cheminement classique.
Classique, oui.
Qu'on peut pas y arriver. Et là, je suis heureux d'être à la 193 Galerie Je me suis retrouvé là-bas à échanger avec eux et à les inviter à venir voir mon atelier. Donc c'est cool. En fait, le hasard aussi permet de faire de créer aussi ces moments-là. Et je me dis, ben, j'encourage vraiment tous les jeunes artistes à bosser, parce qu'en fait, il n'y a pas mieux que la bosser, en fait, travailler.
Ouais.
C'est la seule discipline, c'est la seule chose qui va te permettre de réussir. Si tu es passionné par quelque chose et que tu veux en faire un métier, franchement, il n'y a pas de secret à part bosser chaque jour.
Ouais.
Vraiment. Et puis, il faut pas hésiter à se montrer aussi. Après, moi, je suis un faux introverti parce que
Oui.
quand on me voit, je donne toujours l'impression que, ah ouais, non, mais lui, il est cool et tout, il est fun. Non, moi, j'aime bien me cacher.
C'est cet effet de oui, cette dualité, on est tous un petit peu
Exactement.
des paradoxes ambulants, quoi.
C'est ça. Mais introverti de malade.
Ouais. On arrive à la fin de cet entretien, Francis. Je voudrais te remercier pour ta disponibilité, pour le temps que tu m'as accordé. Si tu as un dernier mot, des remerciements, quelqu'un à mentionner.
Merci,
Moi, je suis
merci.
congolais, hein, donc la dédicace et tout, tu vois, bah, ça m'y connaît.
Beauté.
Donc fais-toi plaisir, envoie.
Bah, je sais pas, dédicace à qui? Bah, dédicace à tout le monde, tous les gens qui me suivent. Merci beaucoup. Moi, j'encourage à tous les artistes qui rêvent d'être exposés, qui rêvent de voir leur travail aller très loin, bah, de croire en leur rêve. Je remercie ma galerie de croire aussi et de m'avoir fait confiance. Merci à eux, merci à Malou, merci à Roger. Je réserve encore pas mal de belles choses. C'est pas fini, Enfant Précoce. Il fait que évoluer, il fait que monter des histoires. Ça va être encore plus surréaliste la prochaine. Donc, keep going.
Merci, merci en tout cas Francis, merci beaucoup. Et c'est dans la boîte. Top.
Ok.
Nice. T'as pas, je sais pas, quelqu'un que tu connais qui tient un café, un restaurant. Tu sais, les chanteurs congolais, ils dédicacent tout, hein. Ils dédicacent les formats.